Drainville PM. Politique.
Soyez un petit peu indulgents envers le PQ, autant que vous l'êtes avec la coalition Avenir-Québec depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir.
Pour l'instant, on est trop gentils dans la couverture qu'on fait.
Bien, écoutez, la coalition Avenir-Québec est en lune de miel, c'est normal. Ils ont fait quelques erreurs, ils ont reculé. Est-ce que vous les attaquez à tous les jours?
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était la députée de Duplessis, donc sur la Côte-Nord, Lorraine Richard, donc députée du Parti québécois, qui demande aux journalistes de se calmer le pompon quand ils parlent du PQ. J'ai bien hâte d'entendre la réaction de Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Et Carl Bélanger, consultant et stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour, Bernard.
Comment tu réagis à cette sortie de la tigresse de cette île, comme je l'appelais dans le temps?
Ben, je me sens pas griffé au niveau du visage, mais je remarque que c'est jamais bon signe quand un parti a l'impression qui est attaqué par les médias. Moi, ça m'a fait penser à 2014, Bernard, au lendemain de la défaite du Parti québécois. Il y avait un caucus avec tous les candidats élus et défaits. Et il y avait un député, Émilien Pelletier, si ma mémoire est bonne, de Saint-Hyacinthe, qui était venu voir les journalistes, là, la face rouge, en colère, puis qui disait « C'était quoi votre deal avec M. Couillard? Pourquoi vous avez été complaisant comme ça avec les libéraux? » Souvent, ce genre de commentaire-là vient d'un député d'arrière-ban qui est moins habitué à être en contact avec les médias,
mais
qui connaît moins leur fonctionnement.
Mais qui dit le fond de sa pensée, par exemple.
Oui, mais le fond de sa pensée, qui exprime une frustration, mais c'est pas parce qu'on est frustré qu'on a raison de l'être et qu'on a tout à fait bien compris. Puis la même chose se voyait avec les libéraux sous le gouvernement Couillard. Quand ça allait pas bien, souvent, quand tu jasais avec l'entourage de M. Couillard, il disait « Les journalistes, là, vous comprenez rien à l'économie. Vous êtes toujours en train de chercher des controverses sur l'identité parce que ça fait des textes faciles. Mais nous, on essaye de changer les programmes, de changer l'économie. Mais ça, c'est trop compliqué pour vous. Vous connaissez rien, puis vous nous faites des jobs de bras. » Donc, bref, quand un parti se sent attaqué par les médias, habituellement, c'est surtout le symptôme là, que ça va pas très, très bien. Et c'est ça, objectivement, qui se passe au Parti québécois.
Carl?
Écoute, moi, j'ai pas vu vraiment de vague d'attaques médiatiques contre le PQ, là. S'il y a quelque chose, c'est que les gens en parlent beaucoup moins qu'avant. La frustration qu'on ressent au niveau du PQ envers les médias, ben, je pense qu'elle est mal canalisée. Ça fait plutôt loser. Puis tu vas me dire, ils ont perdu, là. Mais c'est pas de la faute des médias s'ils ont perdu. Si c'était ça, ça serait trop facile, ça serait trop simple. Il faut aller plus loin que cette réflexion-là parce que c'est un réflexe qui est trop simpliste. S'attaquer aux médias, c'est toujours une cible facile pour les partis d'opposition parce que, évidemment, notre message passe pas, vous parlez jamais du gouvernement en mal, etc. Alors que c'est faux, les journalistes parlent en mal de tout le monde.
Puis à ceux qui pensent qu'on a l'impression d'être au-dessus de tout blâme, je leur rappellerai que moi-même, après chaque texte, je suis toujours anxieux. Je me demande si c'est bon ou mauvais. Je trouve qu'on devrait, on a notre part de blâme, on devrait toujours faire notre mea culpa. Il y a toujours des erreurs qui peuvent être faites ou dans notre travail où on peut s'ostiner sur la qualité de certaines interventions. Mais de dire qu'il y a un biais systématique, négatif contre un parti. Puis je terminerai, Bernard, en rappelant que le problème du PQ, comme on le disait à la dernière campagne électorale, en tout cas, moi, je disais que Jean-François Lisée menait une très bonne campagne, mais il était à l'écart des débats, que c'est ça le problème, c'est qu'on parlait pas assez de lui, pas qu'on parlait en mal de lui.
En tout cas, une chose est sûre, dans le caucus qu'ils viennent de terminer, là, on peut pas dire qu'ils se sont beaucoup, beaucoup étalés ou étendus sur les causes de la défaite. Ils ont comme passé ça à la trappe et puis ils disent qu'ils regardent vers l'avenir. Mais regarder vers l'avenir sans tirer les leçons du passé, des fois, c'est la recette pour se retrouver dans le mur à nouveau.
Oui, mais je pense qu'ils tirent. C'est juste qu'ils veulent pas se gratter le bobo en public. Puis là-dessus, je peux les comprendre. Là, s'ils nous parlent des propositions pour l'avenir et non pas leur mea culpa, l'important, c'est qu'ils le fassent entre eux de façon franche, sans concession.
Tu penses qu'ils l'ont fait?
Écoute, j'ose espérer qu'ils l'ont fait. J'espère. C'est dans leur intérêt de le faire, en tout cas.
Ouais, puis écoute, je vais renchérir sur le point de Paul. Laver son linge sale en famille, là, en politique, c'est toujours préférable que le faire en public. Je prends l'expérience du NPD après l'élection de 2015, là, quand Mulcair a lancé une grande tournée pan-canadienne de tous les membres. Alors, toutes les récriminations, tous les problèmes, sont toutes ressurgies en surface, puis ça a amené, entre autres, le résultat du congrès d'Edmonton et le départ de Tom Mulcair, parce que tout le monde avait la possibilité d'en remettre une couche, de jeter de l'huile sur le feu, puis c'était, ça se voulait cathartique, mais c'était, à mon avis, une erreur.
Oui. Oui. Puis d'ailleurs, Mulcair, qui prédit, hein, l'ancien chef là, du NPD, qui prédit qu'il va y avoir beaucoup d'autres députés qui vont quitter le navire néo-démocrate avant la prochaine élection. Il y en a déjà eu plusieurs, n'est-ce pas, hein, Carl? Petite parenthèse.
Il y en a 6 qui ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas.
Ouais.
3 sont déjà partis, dont Tom Mulcair. Donc, il était sur les ondes de CTV hier et il parlait de ça. On peut l'écouter.
One of the most experienced people to decide not to run again. I know that a lot of my Quebec colleagues have already announced that they're not running, and several others have confided in me that they're not going to run. So I think that's an obvious problem, and I think that Nathan Cullen would be an incredible loss for the team.
Oui, alors il dit, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils partaient et il y en a plusieurs qui m'ont dit à moi, Tom Mulcair, qu'ils allaient quitter. Donc, on attend de voir si ces confidences se confirment dans les faits. Il parlait de Nathan Cullen à la fin, c'est un député NPD très en vue. Certains le voient même comme chef du NPD si jamais Jack Meeting était battu dans sa partielle.
Il a fini troisième contre Tom Mulcair à l'époque.
Ouais.
Et là, dans son cas, dans le cas de Nathan Cullen, c'est sorti cette semaine, il dit qu'il va prendre sa décision au lendemain des élections partielles du 25 février.
Du tout. Ça veut dire si Jack Meade gagne et il reste comme chef, je m'en vais. Puis si Jack Meade perd puis on le fait sauter comme chef, vous me direz si vous me voyez là. En gros, c'est ce que ça veut dire.
C'est ce que les gens interprètent.
Parle-nous un petit peu de ce sondage, Carl. C'est toi, c'est un Angus Reid, hein? Sondage Angus Reid qui démontre que le Québec est vraiment très, très mal aimé ces temps-ci dans le reste du Canada. Là.
Écoute, la cote d'amour du Québec est au plus bas. C'est donc la maison Angus Reid qui vérifiait là, avec quelle province on avait des affinités. Le Québec a beaucoup d'affection pour l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Pas surprenant, ce sont nos voisins, donc on a plus de relations avec eux autres, mais c'est pas réciproque. Écoute, pour l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, on est dans les 40% de Québécois qui ont de l'affection pour ces provinces-là. En Ontario, envers le Québec, 12%. Au Nouveau-Brunswick, 13%. C'est pas très, très fort. Et,
donc, même nos voisins qu'on aime, eux ne nous aiment pas.
Ben c'est ça, c'est exactement ça. Et dans les provinces des prairies, c'est encore pire. Le degré d'amour oscille de 1 à 3 % En fait, une forte majorité des gens en Alberta et en Saskatchewan, là, en haut de 70 % sont carrément hostiles au Québec. Ils considèrent que les Québécois sont des enfants gâtés de la Fédération, etc. Et ça peut expliquer un peu aussi pourquoi c'est assez tentant pour les politiciens provinciaux des autres provinces de faire du Québec bashing.
Ben,
quand tu vois des sondages comme ça.
C'est clair.
Tu dis, on va casser du sucre sur le dos du Québec pour nos propres intérêts partisans. Puis ça, évidemment, ça raffermit l'opinion de leur électorat quand ils font ça.
Tout à fait. Paul?
1 à 3 % de personnes en Alberta puis en Saskatchewan qui aiment le Québec. Là, ça veut dire que, écoute, si la fédération était un party, et c'est un gros si, le Québec serait seul dans son coin à regarder sa montre, puis tout le monde serait en train de rire, puis de s'amuser ensemble, puis le Québec resterait dans son coin. C'est pas mal ça que le sondage nous dit. Écoute, c'est 1 à 3 % là. C'est la marge d'erreur.
Ah oui, tu as absolument. Puis évidemment, pas besoin de s'étendre trop là-dessus, mais la sortie de François Legault sur le pétrole sale de l'Ouest a beaucoup. Et la nouvelle, le jour suivant, que le Québec allait recevoir un montant record de péréquation, c'est les deux grosses bûches qui sont allées chauffer cette désaffection des gens de l'Ouest envers les Québécois. Parle-nous un petit peu, Carl, on change de sujet, là. Parle-nous un petit peu de la Chine, là, parce que McCallum, ça fait vraiment tout un bouquin, là, les commentaires qu'il a fait, où il a essentiellement défendu là, la dirigeante de Huawei qui a été arrêtée par le Canada à la demande des Américains. Là.
Écoute, les avocats de la défense de Meng Wanzhou, là, cette agente de la compagnie Huawei, n'auraient pas fait mieux que John McCallum. Et là, il y a des réactions. Évidemment, les Américains ne sont pas contents. Les Chinois, eux autres, plutôt le contraire. Ils voient ça comme une admission que le Canada a tort dans le dossier. Alors, ça crée des vagues. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent et demandent à ce que John McCallum soit démis de ses fonctions, en disant qu'en tant que diplomate du Canada, il n'avait pas à s'ingérer comme ça dans le processus judiciaire. Et on pousse Justin Trudeau à répondre. Et il est en tournée au Nouveau-Brunswick. On lui a posé la question ce matin. Écoutons ce qu'il avait à dire.
Our focus is entirely on getting those Canadians home safe and making sure that all their rights are respected. And I don't see and making a change would not help release those Canadians a day sooner.
Qu'est-ce que ça veut dire à la fin quand il dit making a change, changer quoi?
Changer McCallum. Si on débarquait McCollum de là, ça ne changerait rien pour aider les Canadiens qui sont prisonniers en Chine. Cependant, si la priorité, comme le dit Justin Trudeau, est de ramener les Canadiens qui sont présentement emprisonnés en Chine, qu'est-ce qu'il fait au Canada, l'ambassadeur? Qu'est-ce qu'il fait ici, si c'est ça la priorité?
Ben, qu'est-ce qu'il fait ici, puis pourquoi est-ce qu'il est venu dire ce qu'il est allé dire? Est-ce qu'on lui a demandé de rentrer au Canada justement pour faire ces déclarations-là, pour donner un espace politique qui permettrait à Trudeau de négocier avec les Chinois?
C'est donc une commande politique pour flatter la Chine dans le sens du poil, pour les amadouer? Ça, c'est une raison possible. Si c'est pas ça, pourquoi John McCollum est encore en poste?
Tu as deux profils d'ambassadeurs. En gros, tu peux avoir les anciens politiciens qui sont de connivence avec le gouvernement et tu as les diplomates qui parlent la langue du pays et connaissent déjà la culture. Je sais que M. McCollum, par alliance, là, connaît la Chine, mais lui-même ne parle pas la langue. Peut-être que ça fait partie des obstacles.
En tout cas, je vais te dire une affaire. C'est très, très, très à suivre, hein, la situation de John McCollum. D'ailleurs, il est supposé rentrer en Chine prochainement, lui?
J'espère, si la priorité, c'est de ramener nos Canadiens. J'espère que l'ambassadeur va y aller puis faire son travail là-bas.
C'est parce que s'il ne rentre pas, il va falloir interpréter ça aussi, là.
Bien, c'est certain. C'est certain.
On s'entend, là.
Et l'autre détail à mentionner dans tout ce dossier-là, c'est le fameux réseau 5G. Ottawa vient d'en venir à une entente avec Nokia. Nokia, qui est un géant des télécommunications de Finlande, pour 40 millions de dollars pour faire de la recherche sur ce fameux réseau 5G. Donc, c'est pour Huawei, c'est un signal que peut-être que le Canada va s'en aller dans une autre direction. Donc, c'est à suivre, évidemment, voir qu'est-ce qui va arriver dans tout ce dossier-là.
Très bien. En terminant, Paul, parle-nous de cette annonce de Marguerite Blais, 200 000 $ là pour la Fondation Gilles Carle pour, dans le fond, c'est les maisons de répit pour les proches aidants là. La CAQ s'est engagée à en construire. C'est quoi? C'est 20 au cours des 10 prochaines années des maisons de répit?
Oui. Puis c'est une annonce positive, bien sûr. Mais la CAQ va devoir se pencher sur la logique même des programmes. Là, ce qu'on fait, on prend les programmes, les institutions en place, on met un peu d'argent, c'est bien, mais un, il va falloir regarder le fond des programmes. Écoute, je donne deux chiffres. Il y a un Québécois sur quatre qui est un proche aidant, mais parmi les proches aidants, tu en as seulement 6% qui profitent des programmes.
Ouais.
Ça veut dire que les programmes, là, les gens réussissent pas à rentrer dans les bonnes petites cases bureaucratiques. Tu sais, le crédit d'impôt, par exemple, tu t'occupes de ta femme qui a le cancer, qui a 65 ans, mais tu n'y as pas droit parce qu'elle a moins de 70 ans.
Sérieux?
Oui. Si tu veux accéder au programme de répit, ben si la personne qui souffre d'une maladie n'est pas liée à la démence, tu vas avoir pas mal plus de difficultés à accéder aux maisons de répit. Plein de petites absurdités comme ça. Et la Coalition Avenir Québec en campagne a dit on va faire une politique nationale des aînés.
Oui.
Je sais que ça a l'air bien ronflant, ça a l'air patente, une politique nationale, mais ça va servir à examiner toutes les incongruités, les absurdités bureaucratiques, et j'ai hâte qu'on se lance là-dedans aussi.
À se donner de la cohérence, là, parce que franchement, là, c'est pas moins d'ouvrage de t'occuper de quelqu'un qui a le cancer à 65 ans que quelqu'un qui a le cancer à 70 ans, voyons donc.
Non.
Bon, on s'entend-tu, là, franchement?
Oui.
OK. Carl Bélanger, consultant, stratège, tu suis pour nous la situation avec McCollum et on va en reparler demain.
Certainement.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci d'être là, vous deux. On se reparle demain?
Sans faute.
À demain.
Excellent. Alors, après la pause, donc, on va continuer à suivre les événements de Québec pour vous. S'il y a du nouveau, on va y retourner. L'actualité internationale, évidemment, sera là. On va parler de ce livre également d'Adolf Hitler. Enfin, il appartenait à Adolf Hitler. Il disait ce que Adolf Hitler aurait fait du Canada s'il avait gagné la guerre.
98.5. Circulation.